RMC. Lahaye, l'amour et vous, Brigitte Lahaye.
Bonjour à tous, je vous propose un florilège des meilleurs moments de Lahaye, l'amour et vous. Nous reviendrons sur tous vos fantasmes assouvis et puis aussi sur ceux qui ne le sont pas. Vous saurez également si la jalousie est plutôt une preuve d'amour ou de désamour. Vous comprendrez aussi quelle est la différence entre orgasme et jouissance. Et puis le libertinage n'aura peut-être plus aucun secret pour vous. Mais tout de suite, nous écoutons ensemble la définition que donnait notre sexologue Gonzague de la Roque-Latour du fantasme.
Alors le fantasme, c'est une pensée imaginaire et une pensée imaginaire qui est active. Alors ça veut dire quoi? C'est important de bien mettre le mot actif parce que c'est pas pareil qu'une croyance. Une croyance, c'est quelque chose qu'on pense comme ça dans l'imagination. Un fantasme, c'est une croyance mais qui va relancer l'excitation sexuelle. Et donc c'est ce que Master et Johnson dans les années 70 appelait le bon copain. C'est celui qu'on utilise pour relancer la machinerie sexuelle quand ça marche moins bien.
J'ai dit qu'on avait tous des fantasmes, mais que malheureusement, en effet, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression de ne pas en avoir. Moi, j'ai souvent des appels de ce type. Est-ce que vous êtes d'accord? On a tous des fantasmes?
Alors, c'est tout à fait vrai. D'abord, on a tous des fantasmes. Il y a beaucoup de gens, d'abord, qui ne les assument pas. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas un accès facile à leur imaginaire. Et ça, c'est un vrai problème qu'on rencontre régulièrement dans les consultations de sexologie. C'est ces personnes qui n'ont pas accès à l'imaginaire. Et l'imaginaire, c'est très important dans la sexualité. Et j'en profite pour ajouter quand même une petite chose qui est importante. C'est que souvent, on nous demande, mais est-ce qu'il faut réaliser ses fantasmes? C'est un grand...
Le fameux passage à l'acte.
Et il faut bien comprendre que le fantasme, par définition, c'est imaginaire. On ne peut pas réaliser un fantasme. Ce qu'on réalise, c'est des fantaisies érotiques, par exemple. Ça, on peut réaliser, effectivement. Mais un fantasme, par définition, c'est quelque chose qui reste dans l'imaginaire.
Alors, bien sûr, on peut avoir un fantasme, par exemple, c'est ce que j'entends souvent, et c'est là où on voit bien que les mots, finalement, sont utilisés un petit peu, parfois, à tort et à travers. J'entends souvent des gens qui disent, j'ai le fantasme d'aller en club libertin, comment je fais pour en parler à ma femme ou... Donc là, au fond, c'est pas réellement ce que vous appelez un fantasme, c'est une pratique différente, une fantaisie.
C'est ça, c'est quelque chose qui planifie dans le futur, ou c'est un désir, ou c'est quelque chose dans l'ordre du jeu érotique qui est prévu dans l'avenir et qui est en train d'être planifié, mais c'est pas ce qu'on appelle un fantasme. Un fantasme, c'est la différence, vous savez, quand on a des patients qui viennent et qui nous disent, moi j'ai le fantasme que ma femme porte des lingeries érotiques. Et ça, quand il est dans un rapport sexuel, le fait qu'il imagine cette lingerie va relancer l'excitation sexuelle. Mais une fois que sa femme achète les lingeries et porte des lingeries, c'est plus un fantasme. On est dans le
réel.
C'est
ça. Ça va l'exciter au départ et puis après ça va devenir finalement normal qu'elle ait des soutiens-gorge ou des petites culottes en dentelle. Et donc ça ne l'excitera plus comme ça l'a excité au début.
Exactement.
Joël est avec nous. Bonjour Joël.
Bonjour Brigitte. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vous ai jamais appelé, mais là je vous appelle parce que j'ai une problématique. En fait, je me suis retrouvé confronté à une problématique. Voilà, je connais un couple d'amis depuis des années. Et la semaine dernière, il m'a annoncé que sa femme le trompait, preuve à l'appui, et il m'a demandé son aide. Et donc, moi, je n'ayant pas l'habitude et la pédagogie pour ce genre de sujet, je me suis dit, je me suis posé, j'ai essayé de réfléchir, ne sachant pas trop quoi faire et en essayant de, parce que je les connais depuis longtemps, ça m'a un petit peu touché quand même. Je ne suis pas en train de faire un procès ni à l'un ni à l'autre. Il y a des circonstances dans la vie qui font que je peux comprendre que sa femme est. Et voilà, a été tenté. Moi, leur donner une solution, les aider. Quand il m'a demandé son aide, je ne savais pas comment.
Mais qu'est-ce qu'il attendait de votre aide justement? Qu'est-ce qu'il attendait de vous?
Je lui donne un conseil. Il m'a même demandé j'en parle à sa femme.
Déjà, vous l'avez écouté, Joël. C'est déjà la première aide qu'on peut faire à quelqu'un. C'est de l'écouter.
En plus, il était vraiment désœuvré, que j'arrive à comprendre. Il était vraiment pas bien. Et bon, en plus, preuve à l'appui, il m'a montré, parce qu'en fait, il avait des doutes et puis il a récupéré des éléments sur son courrier électronique, voilà. Parce qu'elle envoyait des mails à la personne dont avec qui elle le trompe, voilà.
Donc Joël, en fait, il y a deux niveaux d'aide dont vous êtes en train de parler. Il y a d'abord le premier niveau qui est de soutenir votre ami, qui est en pleine crise. C'est pas exactement la même chose, parce que soutenir votre ami, c'est une chose, parce qu'il est il traverse une crise,
il est en souffrance, oui.
Il est en souffrance, et c'est important de pouvoir écouter ce qu'il vous dit, etc. Et servir de médiation, c'est autre chose à l'intérieur du couple. Et je ne sais pas quelles sont vos relations avec ce couple d'amis, mais c'est pas certain que vous soyez
la meilleure personne
pour servir de médiation, vous voyez.
Oui, parce que quelque part, vous connaissez absolument pas les raisons pour lesquelles sa femme a pris un amant. Vous ne savez pour l'instant absolument pas quelle serait la décision de sa femme si elle devait choisir entre son époux. Donc vous mettre en médiateur, c'est au fond parce que quelqu'un qui se met en médiateur doit rester très neutre, c'est-à-dire qu'il ne doit pas prendre parti ni de l'un ni de l'autre. Et là, quelque part, votre ami, en vous confiant tout ça et en vous demandant de l'aide, il vous met de son côté.
Exactement. D'une certaine manière, vous êtes déjà embarqué d'un côté de la problématique.
C'est ce que j'ai cru. Je me suis dit, je vais. Il me pousse un petit peu à prendre parti, et donc moi, j'ai pas envie de prendre parti. Et j'arrive à comprendre sa femme, parce que c'est un couple que je connais depuis des années. Et en fait, ils viennent d'une région du monde où on pratique encore le mariage forcé. Vous voyez, il s'est marié, sa femme avait été très 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 jeune. Je veux dire, c'est pas.
D'accord. Donc ce que vous dites est important, parce que ça montre bien que pour lui aussi, c'est des choses qui se règlent entre hommes.
Peut-être
un peu, hein.
Voilà. Et donc moi je sais que j'en ai parlé avec une personne de mon entourage, moi-même j'en ai parlé à ma femme. Ma femme, elle n'était pas au courant. Elle a pris un peu parti de par rapport à sa femme, parce qu'elle se dit oui, mais t'as vu comment elle se comporte des fois, etc. Je peux pas tout raconter en détail, mais c'est.
Alors écoutez Joël, je vous sens très embarrassé. Vous l'avez écouté.
Non, mais très embarrassé.
Et alors le conseil que je vous donnerais.
En plus, lui, il me dit, je vais aller trouver son amant. Je vais aller. Vous voyez, il pense à la.
Attention, vous allez être complice de crime.
Non. Mais je lui dis justement qu'il fallait qu'il se pose. C'était pas la solution. Qu'il fallait qu'il en parle avec sa femme. Je lui ai déjà dit qu'il fallait que c'est à lui de régler son problème. Et je sais qu'il a commencé à lui en parler quand même. Et elle a apparemment reconnu, ils ont commencé à se parler, déjà. Mais j'ai trouvé quelques petites solutions, vous voyez, entre-temps.
Il me semble que vous prenez la bonne direction, c'est-à-dire d'écouter votre ami, de le soutenir, mais de ne pas trop rentrer non plus dans sa difficulté, parce que lui, il est en crise, il va gérer les choses à sa manière. Vous voyez qu'il essaye d'harponner tout le monde à droite, à gauche, pour essayer de prendre son point de vue en compte.
La seule personne qui l'a harponné, c'est moi.
Non, mais c'est bien, parce qu'il a l'air d'avoir le sang un peu chaud, donc le fait qu'il ait pu vous parler, ça a sûrement beaucoup calmé les choses. Donc vous avez fait vous avez été très utile pour lui. Donc c'est ça qu'il faut vous dire, hein. Ayez la conscience tranquille, vous avez fait le maximum que vous pouviez faire. Si vous redemandez de l'aide, moi je crois qu'à votre place, je conseillerais de ne pas hésiter à consulter quelqu'un pour que ils puissent parler clairement tous les deux de leur de cette histoire et prendre la bonne décision.
Il est en souffrance, c'est vrai qu'il est en souffrance, alors il dort pas beaucoup, etc. Je vais conseiller d'aller voir son médecin traitant, déjà d'en discuter avec lui, voilà.
C'est une bonne idée, parce que les médecins traitants, souvent, ils ont des adresses, vous voyez, donc ils pourraient aussi
s'il y a besoin de trouver
exactement. Et puis, dites-lui peut-être quelque chose s'il peut l'entendre, hein, je ne le connais pas cet homme, mais dites-lui qu'au fond, là, dans sa réaction, ça prouve qu'il aime profondément sa femme et qu'il n'a pas envie de la perdre, et que donc il faut peut-être qu'il comprenne qu'il la traite un petit peu mieux pour qu'elle n'ait plus envie d'avoir un amant.
Tout à fait,
Osez dire quelque chose de cet ordre-là.
Il est prêt à faire des sacrifices justement pour la garder, parce qu'il veut la garder. C'est pour ça que il veut la garder, il veut pas briser son couple, ils ont des enfants,
Bon. Espérons qu'il n'est pas trop tard.
Alors moi, juste un truc, parce que moi je confirme que pour réveiller le couple, c'est quand on a une période dans sa période de vie de couple, il y a des moments où on tombe un petit peu dans la routine ou l'habitude, mais il s'instaure des certaines choses. C'est vrai que d'évoquer ses fantasmes avec sa femme et d'en parler, surtout au moment de l'acte, ça peut être très tonifiant, je veux dire.
Oui, quand on arrive à évoquer ces fantasmes pendant l'acte, c'est vrai que c'est un super aphrodisiaque.
Ouais, oui, tout à fait. Et moi, on le fait régulièrement.
Qu'est-ce que vous racontez?
Qu'est-ce qu'on se raconte? Nos fantasmes.
Ah, c'est peut-être trop secret, hein. Je veux pas vous mettre mal à l'aise, hein, Joël.
Ouais, du genre, qu'on aimerait partager avec des hommes, des femmes, etc. Voilà.
Ah, vous ajoutez toute une meute dans votre lit. Vous avez un grand lit, j'espère.
C'est un lit à taille suédoise.
Joël, je vous rassure, on sait aujourd'hui que plus un couple dure, plus la fréquence des rapports sexuels diminue, parce que justement il y a un épuisement du désir qui existe absolument dans quasiment tous les couples. Ouais. Ce qui veut dire que très rapidement, au bout de quelques années, dans tous les couples, la relation sexuelle se fait à quatre. Il y a l'un, l'autre, le fantasme de l'un et le fantasme de l'autre. Mmh. Et donc c'est toujours à quatre, un rapport sexuel dans les couples qui durent. Donc finalement, vous vivez une situation qui est...
Vous voulez dire à quatre pattes
À quatre pattes aussi.
Bon, et ben comme ça on termine avec un peu d'humour, hein, Joël, parce que franchement c'était pas gay votre histoire. Hein.
Non, c'est parce que je suis un petit peu dans l'embarras, c'est pas les choses que j'ai l'habitude de gérer. Pour le reste ça va, mais pour c'est délicat, franchement.
Mais je vais vous dire une chose, à mon avis vous êtes capable de le gérer et parce qu'il l'a senti pour venir vous en parler. Vous savez, on va pas parler à n'importe qui de choses aussi difficiles et aussi douloureuses. Donc s'il a eu envie de vous en parler à vous, c'est qu'il sentait quelque part que vous étiez apte à l'aider. Donc soyez tranquille. Et puis maintenant, vous verrez bien
Je veux garder mon indépendance et pas prendre parti. C'est surtout ça.
Mais d'ailleurs, c'est le plus grand service que vous pouvez lui rendre. Parce que quand on prend parti, on ne sait jamais de toute façon comment les choses vont évoluer et on peut se retrouver après en porte-à-faux. Donc vous avez bien raison, restez neutre.
Non, mais ce que je souhaite pour eux, c'est ça, une vieille histoire, une histoire ancienne. On n'oublie pas, mais je veux dire que ça soit une histoire ancienne et puis que, c'est ça.
Et puis j'ai l'impression, quand même, dans ce que vous racontez, que non seulement il vous fait confiance et que vous êtes. Possiblement une référence, hein, puisque c'est à vous qu'il va parler, mais que votre couple aussi est pour lui une référence, hein. Vous arrivez à en parler à votre femme, il y a une certaine solidité qui va puiser chez vous, et ça c'est important, vous voyez.
C'est un beau modèle. Merci Joël en tout cas. Bonjour Michael.
Oui, bonjour Brigitte.
Vous avez 28 ans et vous êtes ensemble depuis pas mal de temps, et a priori vous aimeriez bien qu'on vous donne quelques petits conseils pour raviver vos fantasmes.
Oui, enfin, voilà. Votre libido, écoutez, moi j'étais déjà passé chez vous concernant l'addiction. Là, je suis pas très loin parce que je suis avec ma femme depuis bientôt 9-10 ans. On a une petite fille formidable. Tout se passe très très bien. Il n'y a aucun souci. Le seul petit problème, c'est que ma femme a trouvé un travail qui lui demande énormément de temps, énormément d'investigation, tout ça. Et puis, je suis quelqu'un de très fidèle, donc c'est impossible pour moi de concevoir d'aller voir ailleurs. Évidemment, impossible pour moi de concevoir que ma femme va aller voir ailleurs. Et mon fantasme, c'est de coucher avec ma femme. Et ce qu'il y a, c'est que quand elle rentre le soir, elle est morte, elle en peut plus. Donc j'essaye de raviver, faire des petites soirées par resto parce qu'on n'a pas le temps, de faire des petites choses à la maison, tout ça. À 100%, je suis à 40% sur le fait accompli et le reste du temps,
vous arrivez quand même à faire l'amour de temps en temps ou plus du tout?
Oui, bien sûr, mais c'est le problème, c'est que c'est certes, il y a un problème de fatigue, mais il y a un problème d'envie.
Michael, votre femme, elle travaille pas 23 heures sur 24.
Non, là, elle fait dans les 12 heures, entre 10 et 12 heures par jour. Hein.
D'accord. Et week-end compris?
Un week-end sur deux.
Bon, parce que c'est toujours pareil qu'elle travaille énormément, je l'entends, mais il y a quand même des moments où on peut arriver à se retrouver. Et il ne faut pas que ce qui est essentiel pour la bonne entente du couple passe au troisième plan.
Oui, mais justement, ces moments-là, ce que je comprends d'ailleurs, elle profite pour se reposer, quoi.
Oui, bien sûr, mais vous pouvez l'aider à se détendre et à se reposer.
Ah, tout à fait, mon problème est là, c'est pour ça que je vous appelle.
Oui, parce qu'en fait, le souci, c'est que pour pouvoir avoir des rapports sexuels, il faut avoir de la place dans l'emploi du temps, et plus que de la place, il faut une place j'allais dire qualitative. Hein. Vous voyez, le rapport sexuel, c'est plus un bon repas que un plat surgelé qu'on jette sur la table.
C'est,
vous voyez,
c'est une espèce d'amorce, en fait.
Exactement.
Je prends du plaisir à prendre un bon repas avec ma femme. Hein.
Ouais. Donc, comme vous prenez du plaisir à prendre un bon repas avec votre femme, ce qui serait bien, c'est qu'ensemble, vous puissiez aménager des moments, pas forcément au départ destinés à avoir des rapports sexuels, mais destinés à retrouver cette intimité, ces bons moments passés ensemble, en dehors des moments où elle est claquée et elle a besoin de se reposer, vous voyez.
Moi, c'est vrai que ça manque un petit peu de se retrouver sur des moments simples.
Oui. Moi, je pense qu'il faut vraiment aborder la question avec elle, que vous compreniez absolument qu'elle travaille beaucoup et c'est formidable pour elle et elle se réalise, mais vous avez le sentiment de plus être là, quoi, de plus avoir votre place. Et ça, il faut qu'elle l'entende.
Oui et non, parce que ma place, je l'ai toujours. Je suis un mari, je suis un amant, je suis un père en même temps.
Bah alors, pourquoi vous nous appelez alors?
Non, mais c'est cette place de d'amant et de tout ça qui me manque un petit peu, et je trouve pas trop la solution. Peut-être que je m'exprime mal, mais j'ai un petit manque là-dessus et j'ai cogité pendant un petit moment et j'arrive pas trop à la solution.
Non, mais je crois qu'il faut que vous en parliez tranquillement avec elle. Et puis c'est quelque chose qui est assez connu, surtout après avoir eu des enfants. La perspective de la sexualité n'est pas exactement la même chez les hommes et chez les femmes. Chez les hommes, ils ont plus quelque chose un peu animal qui est centré sur le rapport. Les femmes, plus quelque chose autour de le moment qu'on va passer ensemble qui va possiblement aboutir à un rapport sexuel, voyez. Mais s'il n'y a pas ce moment autour, elle risque de prendre vos stimulations sexuelles comme quelque chose de pénible, qui va contre son repos, etc. Donc
c'est un peu du harcèlement quelque part, si vous allez directement.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, sur une espèce de besoin que j'ai,
oui,
et puis
c'est
on ça. Le fait, puis basta.
Oui, oui. Mais en même temps, je le répète, Michael, c'est important qu'elle comprenne que pour l'instant, sur ce plan-là, du moins, vous vous trouvez un petit peu sur la touche, j'insiste, parce que moi j'entends bien votre frustration et le sentiment de pas être reconnu dans quelque chose qui est essentiel pour vous, et donc ça il faut qu'elle l'entende aussi. Je sais pas comment vous pouvez faire, mais je le répète, un emploi du temps, ça s'organise, et on peut vraiment trouver toujours de la place pour ce qui est le plus important pour nous.
D'accord.
Et donc il faut qu'elle entende que le plus important pour vous, c'est qu'il y ait quand même un petit peu de temps à vous deux en tant qu'amants, même si c'est pas uniquement tout de suite pour la culbuter, hein. J'ai bien compris.
Non, mais...
Voyez, il faut qu'elle l'entende. Et peut-être qu'il y a des choses qu'elle peut, je sais pas, qu'elle peut déléguer. Faut voir. Hein. Moi, j'ai pas son emploi du temps sous les yeux, mais je suis persuadée qu'on peut toujours arriver. Après, c'est des choix. Voilà. Quelles sont nos priorités?
Tout à fait. Je vous remercie beaucoup.
Mais je vous en prie, Michael, merci à vous. Bonjour Mélanie.
Bonjour Brigitte, bonjour Gonzague.
Bonjour Mélanie.
Je vous appelais pour vous faire partager un peu ma fantasmatique. Moi, je suis une jeune femme assez épanouie aujourd'hui, avec un travail à responsabilité, mais malgré tout, j'ai plutôt de la poigne dans la vie de tous les jours. Mais malgré tout, dans ma sexualité, j'ai un fantasme qui est présent depuis que je suis toute petite. Alors c'est bizarre à dire, mais depuis enfant, je jouais régulièrement au kidnapping et le... Je sais pas, ça doit porter un nom, ce syndrome, mais de tomber amoureuse de son kidnappeur.
Oui, c'est le syndrome de Stockholm, je crois, hein, c'est ça?
Oui, voilà, c'est ça, il me semble bien aussi. Et donc, c'est un fantasme qui attise mon désir régulièrement quand je fais l'amour avec mon homme, avec qui je suis vraiment en symbiose et où ça se passe très très bien. Et c'est quelque chose qui...
Donc vous imaginez qu'il vous a kidnappé et là vous êtes totalement excitée. Alors rassurez-vous Mélanie, alors ça c'est vraiment dans la catégorie des fantasmes de soumission, qui sont des fantasmes très récurrents chez les femmes. Parce qu'au fond, s'il vous a kidnappé, vous êtes totalement soumise et vous ne pouvez que accéder à son désir.
Exactement, mais c'est tout à fait ça. Donc j'en ai déjà parlé, parce qu'évidemment on parle énormément, que ce soit sur l'oreiller ou pour divers sujets. Et donc évidemment on a échangé l'un et l'autre nos idées de fantasmes. Et je sais pas si vraiment c'est un fantasme que j'aimerais réaliser un jour. Je lui en ai parlé Et lui, il a tout de suite imaginé me kidnapper pour de vrai, mais pour de faux, avec une camionnette et tout ce qui s'ensuit. Alors que moi, c'est vraiment plus la mise en situation de se créer peut-être des petits scénarios. Je suppose qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce côté très cérébral en fait des choses. Et je trouve ça plutôt sympa de s'imaginer plein de petites histoires. Et en effet, comme pour dire, pour reprendre ce que vous avez dit précédemment, la plupart du temps, après, on fait un peu l'amour à quatre, finalement.
Est-ce que, Mélanie, vous savez les trois fantasmes les plus récurrents chez les femmes?
Alors, j'ai entendu dire dans cette émission que le fantasme du viol, entre guillemets, c'était assez répandu aussi, que c'était assez culpabilisant d'ailleurs pour certaines femmes.
Mais c'est un peu la même chose.
C'est un peu la même chose.
Voilà, en fait, c'est à peu près similaire.
Les trois plus fréquents, c'est changer de partenaire dans son fantasme, dans son imagination. Le deuxième, c'est se rappeler d'une fois qui a été particulièrement excitante ou changer de lieu. Et le troisième, c'est des fantasmes de domination-soumission. Donc vous voyez,
je suis plutôt pas mal placée.
Donc, et en général, les fantasmes, vous savez, c'est il y en a plusieurs en même temps. C'est pas, on se fixe pas sur un seul fantasme, on en a plein.
Bien sûr.
D'accord.
Alors moi, j'étais une petite fille avec beaucoup d'imaginaire, donc j'ai grandi en conservant et en nourrissant cet imaginaire. Donc là-dessus, je n'ai pas à me plaindre. J'en ai tout un tas qui, à chaque fois que je fais l'amour avec mon homme, se dessine au fil du temps. Et on en a assouvi certains, mais d'autres resteront, je suppose, simplement dans mon petit jardin secret.
Non, mais ce qui est formidable en plus, c'est que vous arrivez à communiquer avec votre partenaire, donc votre sexualité, forcément, elle va bien, hein.
Ah oui, tout à fait. Non, mais là-dessus, je n'ai pas à me plaindre. Je suis avec l'homme de ma vie. D'ailleurs, j'en profite, on ne sait jamais. Je t'aime, mon chéri, voilà.
Et lui aussi, vous raconte ses fantasmes?
Oui, tout à fait. On parle beaucoup de tout ça comme d'autres choses. En fait, pour nous, c'est très naturel. La sexualité, ça fait partie de la vie. Donc, et c'est la chose qui amène le plus de plaisir. Et c'est gratuit, en plus. Donc, profitons-en. Voilà.
Vous avez bien raison. Merci, en tout cas, de l'avoir partagé avec nous, Mélanie.
Merci à vous, Brigitte. Merci. Au revoir.
Au revoir.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaie. RMC. Lahaie, l'amour et vous, Brigitte Lahaie.
Dans un instant, vous pourrez entendre Isabelle. Elle nous expliquait en quoi la jalousie était une preuve de désamour. Mais tout de suite, écoutons l'analyse de notre neuropsychiatre préféré, Jean-Michel Ougrolian, sur justement cette question de jalousie.
Si on n'éprouve absolument aucune jalousie par rapport à son conjoint, si on n'a rien à faire du fait que il ou elle se tire avec quelqu'un d'autre, il est difficile d'imaginer qu'on est amoureux.
On est d'accord.
Bon. Inversement, il ne faut pas non plus exagérer. Il ne faut pas non plus que cette jalousie se transforme en une... Parce qu'en fait, quelle est la racine de la jalousie? C'est la peur du rival. C'est la peur de perdre un combat éventuel contre un rival possible.
Absolument. Oui.
Ou une rivale possible. Donc finalement, c'est une espèce de crainte.
C'est parce qu'il y a une insécurité dans la relation, finalement,
une insécurité,
qu'on va être très jaloux.
Voilà. Et puis il y a aussi le fait que, quelle que soit la sécurité de la relation, dans le monde où nous vivons, on ne sait jamais, comme on dit. Tout peut arriver. Donc par conséquent, il faut savoir jusqu'à quel point on peut maîtriser cette peur.
C'est ça. Donc derrière la jalousie, surtout pathologique, il y a évidemment beaucoup d'insécurité, peur d'être, manque d'estime de soi, etc., etc.
Voilà, il y a une insécurité totale, il y a la peur d'un rival possible, et le rival peut être d'ailleurs réel, par exemple, je sais pas, dans une soirée, s'il y a un type qui drague ma femme de manière trop ostensible, c'est un rival réel et qui commence vraiment...
Et qu'en plus, votre femme, elle lui fait des yeux doux...
Ça aggrave la situation, ou inversement, d'ailleurs. Et il y a aussi des rivaux imaginaires, parce que il y a des femmes qui sont, ou des hommes qui sont complètement fidèles, bien entendu, qui n'imaginent absolument... Mais dans l'imagination, dans l'imaginaire de leur conjoint, il y a une rivalité possible. On soupçonne toujours qu'il y a quelqu'un de caché qui va se révéler, etc. Le plus bel exemple de ça, c'est Othello, n'est-ce pas? Cette tragédie de Shakespeare où on voit Othello très jaloux, mais de qui? Il ne sait pas de qui. C'est ça qui l'angoisse. C'est qu'il n'arrive pas à déterminer quel est son rival. Et ne pouvant pas déterminer le rival, et pour priver tous les rivaux potentiels et imaginaires de la possession de sa femme, il la tue de manière à ce que plus personne ne puisse la posséder. Mais à commencer par lui.
Isabelle est avec nous. Bonjour Isabelle.
Bonjour Brigitte. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
Alors, à votre avis, c'est à la fois une preuve d'amour, mais aussi de désamour, c'est-à-dire
Ben, tout à fait. Je vais, pour reprendre ce que Jean-Michel a dit, c'est vrai qu'au départ, si on n'a pas ce petit titillement au cœur quand quelqu'un s'intéresse à notre compagnon ou à notre compagne, c'est que quelque part, il n'y a pas d'amour. Ça veut dire, bon, on peut se passer de lui, on peut vivre sans lui, il n'y a pas forcément de sentiment. Mais d'un autre côté, c'est à partir du moment où la jalousie devient maladive et où on est à l'affût du moindre geste, où on surveille, je sais pas, le téléphone, les courriers, où on regarde les gens qui seraient susceptibles de regarder le compagnon ou la compagne, là, effectivement, c'est plus une preuve d'amour parce que c'est quelque chose qui est lourd. Et effectivement, il y a la peur, mais il y a aussi, comme vous l'avez si justement dit, il y a la confiance. Donc, il y a la confiance en soi, mais il y a aussi la confiance en l'autre.
Oui, ça c'est vrai, parce que quand il y a eu entre guillemets un accroc dans le contrat, parfois la jalousie prend beaucoup d'importance, alors qu'au départ il n'y avait pas de jalousie particulière.
Oui, quand il y a eu un antécédent, si je puis dire, oui. Quand il y a eu un antécédent, ça amène à la prudence dans l'avenir, et un excès de prudence devient une jalousie qui devient de plus en plus pathologique.
Et c'est là où, en effet, le terme de confiance est important.
On peut... Oui, mais ce que dit notre ami, et c'est très important, c'est que c'est une confiance en soi et c'est une confiance en l'autre. Mais je crois que la confiance en soi, dans le cas précis, est très très importante. Je ne dis pas qu'elle est plus importante que la confiance dans l'autre, mais elle est très importante.
Peut-être, si.
Et peut-être même plus. Parce que si on n'a pas confiance en soi, bien sûr on doute de soi, et si on doute de soi, on se dit, mais comment se fait-il que cet autre reste attaché à moi?
Puis si on a vraiment très confiance en soi, on se dit, de toute façon, même s'il va ailleurs, ça sera moins bien, il reviendra.
il reviendra.
Hein, Isabelle, vous êtes d'accord?
Tout à fait.
Bon, après tout, hein.
Oui, après tout, on dit, il faut même, peut-être dans certains cas, encourager l'autre à aller voir ailleurs pour voir à quel point c'est mieux ici.
En même temps, c'est délicat aussi, parce qu'à partir du moment où l'autre est allé voir ailleurs, ou a peut-être même n'est pas allé voir ailleurs, mais il y a eu suspicion, c'est vrai qu'on peut se poser la question donc par rapport à l'autre, mais par rapport à la troisième personne, parce qu'il y a toujours un troisième élément qui rentre dans un couple. Voilà, oui. Donc la personne avec qui l'on est peut très bien avoir eu un petit moment de doute, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, il peut se passer beaucoup de choses, et puis se dire mais je re-rentre dans le rang parce que finalement c'est toi que j'aime, et puis au final la troisième personne qui revient un petit peu à la charge, et donc voilà, c'est un petit peu la difficulté que la troisième personne vienne aussi s'immiscer et insister.
Oui, mais c'est là où justement, si le couple est solide et fait corps, si je puis dire, la troisième personne, elle ne pourra pas rentrer. Hein.
Tout à fait. Mais alors, je voudrais quand même ajouter quelque chose. C'est que la jalousie ne se porte pas uniquement sur le rival en amour. La jalousie peut se porter sur la belle-mère, le beau-père, la belle-sœur, le chien, la chatte, ou enfin, sans jeu de mots.
Je vous laisse vos propos, hein, Jean-Michel.
Non, c'est vrai.
Vous êtes resté gamin, Jean-Michel, vous revient quand même à votre âge.
Je retombe en enfance, Brigitte, à mon âge avancé.
Bon. Mais ceci étant, on a une petite minette, nous, à la maison.
Eh ben voilà, vous voyez.
Bon, eh bien, tout le monde ronronne aujourd'hui, c'est formidable.
Non, mais c'est vrai que effectivement, c'est la première idée qui m'est venue, c'est vraiment l'idée du couple, mais c'est vrai que certaines personnes peuvent avoir une jalousie. Après, ça va faire appel peut-être, je sais pas, à la réussite, à la personne qui réussit mieux.
Oui, ça peut être la jalousie d'un passe-temps, d'un...
Moi, j'ai beaucoup entendu dans l'exercice, lorsque j'exerçais, n'est-ce pas, la psychiatrie, des femmes ou des hommes qui étaient jalouses du travail du conjoint.
Oui, bien sûr,
en disant, il est trop absorbé par son travail, je ne compte plus à ses yeux,
derrière cette jalousie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne s'occupe pas assez de moi, au fond.
Il ne s'occupe pas assez de moi, et c'est ce que j'ai appelé à ce moment-là le fait que la jalousie n'est plus de la jalousie du tiers, mais la jalousie de la moitié, c'est-à-dire il est jaloux de l'autre en tant que tel. Il est jaloux de la réussite de l'autre, ou bien nous sommes tous les deux, je sais pas, des enseignants, et brusquement il y en a l'un des deux qui a une promotion pendant que l'autre ne l'a pas. Et à ce moment-là, il y a une jalousie qui se crée à l'intérieur même, qui ronge le couple, mais de l'intérieur, sans l'intervention d'une tierce personne. Et ceci est encore, à mon avis, plus délétère et plus dramatique et plus destructeur pour un couple que la jalousie d'un tiers qu'on peut toujours éliminer.
Absolument, oui. Merci. Oui, je vous en prie, allez-y, Isabelle.
Excusez-moi, mais j'ai tout de suite vu la jalousie homme-femme et j'ai pensé à mon cas personnel, donc je vous ai répondu en tant que moi, quelque part. Et c'est vrai qu'avec l'explication que vous venez de donner à l'inverse, j'ai le reflet de mon compagnon, parce que je travaille beaucoup, mais quelque chose qui me passionne, et il ne supporte pas que je sois en train de travailler pendant qu'il est là, parce que quelque part...
Oui, le cas de RSC, la chatte, hein, Isabelle.
Exactement. En tout cas, merci.
Brigitte a toujours le mot juste pour désigner l'action à accomplir.
Exactement.
Non, mais plus sérieusement, parce que là, on termine sur une boutade, c'est pas bien. Isabelle, plus sérieusement, rassurez-le. Parce oui. que là, derrière ça, on voit bien que quelque part, vous êtes presque trop brillante pour lui. Il faut le réadmirer et vous verrez qu'il vous embêtera moins avec votre travail.
Oui, tout à fait.
C'est un homme formidable, extraordinaire, et vous verrez qu'il ça le rassurera.
Exactement. Mais je le fais, rassurez-vous, je le fais.
Je n'en doute point. Merci en beaucoup. Tout cas de votre témoignage.
Merci, au revoir.
Au revoir.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaie.
Marie, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Karl.
Bonjour.
Vous aviez donc un mari éjaculateur précoce.
Alors, en fait, j'entends souvent sur votre émission, c'est un sujet qui revient, qui est assez récurrent, et pour le coup, je me suis dit, je vais appeler parce qu'en fait, à chaque fois, je me dis, mais moi, comment ça se fait que j'entends jamais ça, que ce que je fais, moi, ça m'a l'air pourtant simple, ce que je fais pas toute seule, d'ailleurs, la personne avec qui je suis. Donc, en ce moment, j'ai un amant, depuis quelque temps, que je connais de mieux en mieux, et en fait, très vite, j'ai compris qu'il était un petit peu, il n'avait pas trop confiance. Il ne le montrait pas, en fait, il ne l'a pas dit, mais il a été honnête. Il m'a fait comprendre par différentes manières. Il faut être assez à l'écoute, finalement, à l'écoute. Et du coup, j'ai vu qu'il était assez long dans les préliminaires, ce qui est pas mal, hein, mais que lui, bon, ça allait assez vite, effectivement.
Mmh. Donc, je précise quand même que c'est à peu près entre 30 à 35% des hommes qui ont ce problème de jouir trop rapidement. Hein. Donc ouais. on est quand même dans déjà un nombre impressionnant. Hein.
Mais moi ça m'a jamais gêné.
Donc on a une chance sur trois ou une malchance sur trois de tomber sur.
Oui, ouais, moi c'était pas vraiment une malchance parce qu'il a plein de qualités.
D'accord.
Alors j'ai eu quand même de la chance. Et puis en fait, moi je lui ai proposé de prendre son plaisir dès le début. Mmh. Ensuite, on papote, on fait des coups de caresse, on boit une petite coupette, c'est la détente complète. Et puis, petit à petit, je le séduis, je caresse. Et puis là, on fait vraiment, il tient plus longtemps.
Donc vous remettez le couvert, encore une expression.
Voilà, il m'a confié il n'y a pas longtemps que je lui ai redonné confiance, et que c'était pour lui un souci avant et que c'était maintenant qu'il allait je suis libertine lui aussi, donc ça lui a donné confiance dans sa vie avec d'autres personnes.
Mais est-ce qu'il tient mieux le premier coup justement maintenant?
Alors oui, parfois j'ai l'impression qu'il oublie qu'il avait un souci. En fait, ça devient, on n'en parle même plus. En fait, mm-hmm. je m'en rends compte en parlant là que c'est passé, on est passé à autre chose. C'est plus important, quoi.
D'accord. Parce que ce qu'il faut... Parce que, remettre le couvert, c'est une solution, mais c'est une solution qui marche pas définitivement, parce que plus l'homme va vieillir, plus la phase réfractaire va être longue. Et donc, il y a un moment donné, ça fonctionne pas. Donc, c'est pour ça que c'est un conseil que je donne assez peu, dans la mesure où ce conseil, il risque de se retourner à un moment donné contre l'homme.
Enfin, moi, je m'adapte facilement. Moi, j'ai été mariée très longtemps avec un monsieur qui a eu un problème d'opération également de prostate. Mm-hmm. Donc, il n'y avait pas du tout d'érection. Il ne supportait pas les injections. Et on avait appris à faire l'amour différemment. On se masturbait, etc. C'est vrai que ça, dans la durée, ça n'a pas tenu parce qu'il refusait la prothèse. Hein, de peur, ça fait peur, hein, c'est vrai. Hein. En fait, quand j'ai quitté, qu'il l'a fait. Il l'a fait quelques mois après. Mmh. Mais c'était trop tard parce que je m'étais attachée à quelqu'un d'autre. C'était pas vraiment le but. Moi, je voulais juste...
Bien sûr,
et
ouais.
Puis voilà, je suis tombée amoureuse d'une personne que je rencontrais. Mais je suis pas partie pour cette raison. Je suis partie parce que voilà, à un moment donné, on est passé à un autre stade. Mais je veux dire, pendant 4 ans, pendant 4 ans, on continue à faire l'amour finalement. En fait. Mais parce que je suis dans, pour le dialogue. Même
mais parce que vous êtes une femme libre dans sa sexualité. Moi, je le dis souvent, hein, quand les femmes savent être libres dans leur sexualité, elles trouvent toujours une solution pour que la sexualité ouais. marche avec un homme, quel que soit son symptôme.
Oui. Et je pense que à ce moment-là, quand la femme est assez libre, l'homme, il peut se détendre et parler un peu de lui. Les hommes, ils sont. Si on les met pas à l'aise.
Mais il croit qu'il faut assurer et c'est vrai que...
Oui, mais c'est un malentendu en fait.
Je sais bien.
Il faut vraiment prendre une autre posture.
Mais ce qui est très intéressant dans votre discours, c'est que vous avez fait carrément une mini-thérapie parce que grâce à votre comportement, il a changé par rapport à cette éjaculation précoce, il a changé son comportement petit à petit peu grâce à vous. Donc il a pris confiance à ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut se travailler.
C'est ce qu'on appelle une thérapie cognitive. Finalement,
oui.
Bref.
Tout simplement.
La dédramatisation, en fait, et de favoriser du coup la relation, et de parler, et de. Moi qui suis plutôt réservée et timide, dans les moments intimes, je suis comme ça, quoi. Très libre. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, je peux mettre extrêmement à l'aise. Les personnes selon.
Bon, on va vous en envoyer hein, des hommes, parce que des infirmières du sexe, on en a besoin, hein, Marie.
Oui,
ben,
à la fois alors.
À la fois, oh bah.
Oh, quoi que.
Merci en tout cas de votre témoignage, merci beaucoup.
Je vous en prie, bonne journée, au revoir. Au revoir.
Retrouvez tous les shows d'RMC en podcast sur rmc.fr. Sur RMC, ne ratez rien de l'AL Amourez-vous. En podcast avec l'appli RMC et sur rmc.fr.
Et un petit tour du côté de rmc.fr avec ce mail de Maïsé qui nous dit « Je vous écoute, c'est très intéressant ce que vous dites, mais moi j'ai une petite fille qui a aujourd'hui 3 ans et j'aurais aimé savoir comment on peut appeler son sexe parce que je vais pas quand même déjà lui dire qu'elle a un vagin et une vulve et je ne sais pas si les mots que j'utilise comme foufounette sont des mots qui peuvent l'aider à être fière plus tard de son sexe féminin. » Oui, alors ça c'est la vraie question, mais de toute façon on ne dit pas non plus aux petits garçons qu'ils ont un pénis.
Une verge, non, on leur dit qu'ils ont un zizi. Donc je pense que de toute façon, pendant l'enfance, on a toujours donné des surnoms à plein de choses, pas simplement au sexe. Hein. Donc il n'y a absolument rien de scandaleux. Et donc ça ne va pas traumatiser ad vitam aeternam cette petite fille si on lui donne un nom si on donne un nom à son sexe. Foufoune, enfin bon, ce que la maman veut simplement. Il faudra arrêter vers l'âge de 10-12 ans, au moment de la puberté. Il faudra peut-être arrêter ce genre de choses. Et je pense que là, les cours d'éducation sexuelle pourront prendre le relais. Mais c'est absolument pas scandaleux pour un petit garçon d'appeler son sexe un zizi, bien sûr.
Bien sûr. Et de toute façon, y a un moment donné où il faut pas tellement évoquer non plus les organes génitaux de ses enfants. Oui. C'est une chose dont on va parler au moment de la puberté, en effet.
Ça, faut en parler naturellement, sans forcer. Et sans mettre l'accent spécifiquement sur cette zone-là, mais en parler naturellement.
Exactement. Ce qui est surtout dramatique, c'est quand on dit aux petites filles qu'elles n'ont pas de, zizi. Oui. C'est cette négation de ce manque, hein, comme disent les psys, qui peut poser problème.
Enfin, ça, c'est merci Monsieur Freud Vous voyez dans le sexe de la femme la négation du sexe masculin, donc je fais un raccourci, si j'ose dire.
Oui, absolument.
RMC, c'est au 32-16.
45 centimes la minute.
Et au 7-32-16.
65 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC, l'amourez-vous, Brigitte Lahaye.
On écoute Sylvie et nous étions avec notre sexologue Philippe Arlin. Vous saurez si le fantasme doit être ou non assouvi.
Bonjour Brigitte, bonjour Philippe.
Bonjour Sylvie.
Et on revient sur les fantasmes.
Oui, je voulais revenir avec vous sur ce sujet parce que je me pose une question là, notamment je me demande si les fantasmes sont vraiment faits pour être assouvis. On est un petit peu devant, avec mon mari, on se retrouve devant une situation nouvelle pour nous, c'est que... il a revu un ami qu'il avait perdu de vue depuis quelques années en fait,
oui.
Et que moi je ne connaissais pas du tout. Et depuis cet été en fait, donc on l'a revu pas mal, on fait pas mal de soirées tous les trois, et on va dire que depuis quelques semaines, avec mon mari, on s'est pris au jeu de fantasmer un petit peu sur lui, quoi. Et c'est assez excitant. on va dire que ça pimente pas mal nos nuits, c'est même plutôt très bien, mais il s'est rien passé pour le moment, et on va dire que depuis peu de temps, ça devient un petit peu tendancieux au niveau des soirées qu'on passe tous les trois, en fin de soirée, il y a des allusions, enfin bon, ça devient un tout petit peu compliqué, Je me demande, enfin, je vois bien que, on va dire que ça pourrait basculer assez vite, voilà. Et puis du coup, ben, je me pose pas mal de questions, étant donné que c'est quand même un ami. J'ai un peu peur de, à la fois des réactions de mon mari. Je me demande si après, ben voilà, il y aura.
Là, vous êtes en train de manier de la nitroglycérine, Sylvie. Et si vous passez à l'acte, ça peut exploser dans tous les sens. Peut-être que ça peut être formidable, mais il y a plus de chances que ça pose de vraies difficultés ensuite.
Moi, je dirais qu'on n'est pas dans le domaine du fantasme. On est dans le domaine de l'imagination et de l'excitation. C'est déjà trop réel pour être un fantasme. C'est-à-dire que cette personne, elle existe. Vous la côtoyez dans le quotidien. Et là, on n'est pas du tout dans ce que nous, psy, on appelle un fantasme. Un fantasme, c'est bien souvent quelque chose qui se libère au niveau de notre imagination parce que ça ne peut pas être vécu dans le réel. Mm-hmm. Et c'est l'intérêt du fantasme. Donc, c'est pour ça que les psys auraient tendance tous à dire un fantasme n'est pas fait pour être vécu. Maintenant, le problème dans le vocabulaire, c'est qu'on met le mot fantasme sur tout et entre autres sur les désirs et sur l'imagination. Donc, je comprends que vous appeliez ça un fantasme. C'est, en gros, vous vous faites mousser tous les deux. Il y a une forme d'excitation à l'idée d'envisager cet homme, et je peux vous assurer que ce qu'il y a de plus excitant, c'est de l'imaginer, c'est certainement pas de le vivre. Parce que effectivement, quand on passe de l'imagination au réel, il y a plein de facteurs dont on ne tient pas compte dans l'imagination, et sinon l'imagination n'aurait pas d'intérêt, qui vont s'imposer dans le réel, et qui, comme le dit Brigitte, risquent d'exploser. On ne sait pas dans quel sens, mais qui risquent d'exploser. Et du coup, ce qui nourrit aujourd'hui votre sexualité et qui peut la rendre bien plus pimentée, bien plus fun, comme on le dit, risque de devenir réelle, concrète, et du coup, vous perdez un outil extraordinaire d'excitation.
Moi, je vais vous dire clairement les choses, Sylvine. Surtout, si vous faites un trio, ne le faites pas avec cet homme. Éventuellement, prenez un étranger et à ce moment-là, vous réaliserez un fantasme, qui est le fantasme de faire un trio. Mais surtout, ne le faites pas avec cet homme. Surtout si c'est un très très bon ami de votre mari.
Ami mais qu'on avait perdu de vue et qui, pour des raisons professionnelles et dans la région, bon, après il va retourner. Enfin, on le reverra sûrement moins. On le côtoie pas tous les jours.
Mais là j'entends bien que vous avez envie qu'on vous dise faites-le quand même.
Vous êtes en train de nous expliquer pourquoi le faire.
Mais moi, après vous ferez bien ce que vous voulez. Hein, on sera pas derrière votre chambre à coucher pour vous surveiller. Hein. Nous, on est là pour vous éclairer. Après, si vous voulez quand même prendre les risques, vous les prenez. Mais vous avez tout à perdre. D'abord parce que votre mari n'a pas les mêmes raisons que vous, éventuellement, de passer à l'acte. Et là-dessus, je crois que vous n'êtes absolument pas conscient, ni l'un ni l'autre, de ce qui va se jouer. Et donc, ça risque de mettre un sacré bordel dans votre couple. Ensuite, cet homme, peut-être que ça sera plus l'ami de votre mari. Peut-être que vous allez être totalement, puisque vous êtes déjà très, très excité, vous allez totalement vous envoyer en l'air et ça va être un pied énorme et vous risquez de ne plus comprendre ce qui vous arrive. Votre mari risque aussi de ne pas comprendre pourquoi vous êtes aussi en train de vous envoyer en l'air avec un autre homme que lui. Vous voyez, je suis en train de vous décrire tout ce qui peut se passer. Ouais. Alors certes, c'est super excitant, mais les lendemains ne seront peut-être pas très très agréables à vivre.
Ouais, mais c'est bien ce que je pensais. J'avais déjà un peu cette idée-là en tête, quoi. Donc ça confirme quand même ce que je m'étais dit.
Et à mon avis, hein, si vous voulez que je vous donne encore un conseil qui va pas vous plaire, mais c'est pas grave, moi je suis là pour vous dire la vérité, cessez de vous amuser à vous exciter l'un l'autre avec cet homme, parce qu'à un moment donné, ça va être tellement fort que vous pourrez pas faire autrement que de passer à l'acte. Donc il faut vraiment arrêter ce jeu, c'est un jeu dangereux. Me semble-t-il. Hein.
Ou reprendre l'idée que vous suggérez, Brigitte, c'est-à-dire que ce qui vous excite et ce qui peut être très intéressant sur l'oreiller, c'est d'inventer des tas de situations qu'on sait qu'on ne vivra pas, mais qui va exciter l'autre, et donc il n'y a pas besoin que ça soit toujours lui, ça peut être un autre homme. Si l'idée qu'il y a un autre homme dans votre lit peut rajouter quelque chose à votre couple, ne serait-ce que quand on se le raconte, voilà, n'hésitez pas, mais Brigitte a raison. Le rendre trop réel en mettant dans votre lit toujours la même personne, ça pourrait finir par devenir beaucoup plus dangereux que excitant.
Ouais, je comprends. Eh bien, on va essayer.
Merci Sylvie, en tout cas.
Je vous remercie.
Je vous en prie. Au revoir. Nous sommes donc maintenant avec Frédéric. Vous avez 46 ans, Frédéric. Et pour vous, c'est le libertinage qui a apporté du ludique dans votre sexualité.
Oui, ben, bonjour Brigitte et bonjour Philippe.
Bonjour Frédéric.
Oui, actuellement, oui, c'est le libertinage. Les sextoys, on a notre petite mallette de sextoys qui est là. Ça fait une dizaine d'années qu'on joue avec. Et en fait, en ce moment, la mallette, elle reste fermée, en fait. Enfin, on n'a pas besoin de ça pour jouer.
Oui, mais il vous faut du vrai, maintenant. Hein.
Oh, pas forcément, mais on s'amuse bien en libertinant, et puis on s'amuse bien tous les deux. Mmh. À midi, mon épouse est rentrée, on s'est un petit peu amusé tous les deux, on avait le temps, donc voilà, quoi. Donc, en fait, je pense que, je reviens par rapport à ce que vous disiez. C'est vrai que faut que ça soit ludique, sinon... sinon, il n'y a aucun intérêt. Et après, on va s'ennuyer. Quoi. Donc après,
On ne peut pas dire qu'il n'y a aucun intérêt si ce n'est pas ludique. Hein. Au début, la sexualité, elle n'est pas ludique. D'ailleurs, elle est au contraire très passionnelle et elle a beaucoup d'intérêt. Mais c'est quand on est un peu dans une... on tombe un peu dans une relation qui est longue et avec laquelle l'habitude a un petit peu prend le dessus. C'est là où le ludique doit intervenir.
Mmh. Oui, c'est ce qu'on a fait en amenant les sextoys notamment, et j'ai pas suivi le conseil de Philippe, en fait j'ai été chercher moi-même des sextoys et je les ai offerts à mon épouse.
Non mais tant mieux si ça a marché, mais je dis juste qu'il faut être prudent sur le sujet.
Voilà, et puis surtout j'ai été vraiment très bien conseillé parce que j'étais dans un magasin où la personne a su vraiment bien me conseiller. Donc ça a vraiment plu à mon épouse et et maintenant on en a deux ou trois favoris qu'on sort de temps en temps, mais c'est vrai qu'en ce moment ça fait longtemps qu'on les a pas sortis. Parce qu'on est parti, on joue au niveau libertinage, et puis tous les deux aussi, on a d'autres jouets.
Ça a permis d'ouvrir sur quelque chose d'autre.
C'est ça.
C'est vraiment, c'est comme une forme de lubrifiant, ça facilite l'accès à une autre dimension de la sexualité. C'est vraiment un facilitant, et faut l'entendre dans ce sens-là. Le ludique, c'est juste se permettre de dépasser des blocages, des tabous, des inhibitions, d'en parler à deux, de jouer, de rire autour de ça, et dès qu'on rit, évidemment, on se détend, et les choses deviennent plus facilement possibles.
Mmh. Voilà, et puis ce qu'il y a eu aussi, il y a eu les magasins en ligne sur Internet aussi, où ça facilite les choses pour acheter des jouets. Et puis maintenant, il y a des petits magasins en ville qui sont où ça s'appelle plus des sex shops, ça s'appelle plus des
love shops,
par exemple. Voilà. Mmh. Où là, on rentre comme dans un autre magasin, c'est devenu plus...
Mais c'est l'avantage d'une société qui s'est quand même beaucoup ouverte à la sexualité.
Bon concept. C'est un très bon concept qui évite le côté justement tabou et un peu glauque de la sex shop avec ses rideaux lourds, ce côté vraiment... Et du coup, l'objet retrouve une vraie place de jeu.
Et les objets sont beaux. Enfin, il y a certains objets... Il y a des textures, il y a des formes, etc. où c'est vraiment
C'est même incroyable hein, quand je me souviens des jouets qui enfin ça s'appelait pas des jouets d'ailleurs ça s'appelait des godemichés ou des vibromasseurs dans les années 80. Franchement on n'avait pas envie de mettre ça sur notre table de nuit, on les rangeait vite dans la
Faut être très excité pour s'en
dans
servir
un tiroir.
Quand même.
Oh bah oui, enfin ça marchait bien quand même
mais
c'est vrai que c'était pas enfin et on a beau dire l'esthétisme ça c'est important, on a envie de voir des choses qui sont belles pour aussi hein.
Voilà. Et quand on rencontre des couples avec qui on va libertiner, on parle de nos sextoys, donc on fait des comparaisons et comme ça en plus ça amène autre chose, c'est-à-dire que on a envie d'essayer un autre sextoy pour voir les effets que ça fait aussi derrière. On fait des comparatifs, c'est sympa aussi.
Il va y avoir bientôt les bandes essais des sextoys publiées par les libertins.
Voilà, je vais faire ça.
N'est-ce
il y a des sites qui existent vous en faites déjà. Et puis, pourquoi pas.
Voilà une bonne idée qu'on vous donne, Frédéric.
Voilà,
faudra remercier Philippe Arlin.
Entre deux petits jeux, je vais voir ce que je peux faire.
Je compte sur vous.
Oui.
Merci Frédéric, en tout cas, d'avoir témoigné.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaie.